partage, il n'y a pas de souci, hein, normalement.
Il y a juste deux petites slides voilà, que je vous partage. Donc, vous présentez brièvement effectivement la Compagnie nationale du Rhône. Je pense que c'est important de connaître un petit peu l'acteur pour comprendre la suite de l'exposé. Donc, CNR est un acteur assez ancien sur le territoire, hein, comme SNCF TER, qui est là depuis environ 90 ans. Et donc, CNR est concessionnaire du fleuve Rhône. Cette concession, elle est déléguée par l'État pour aménager et exploiter ce fleuve. Nous avons trois missions, c'est ce qui est une spécificité de CNR, hein, trois missions au travers de cette concession. La production hydroélectrique, c'est la mission pour laquelle on est le plus connu, une mission relative à la navigation sur le fleuve Rhône et également une mission liée à l'irrigation. Et ce modèle est assez unique puisque cette concession fonctionne avec une bascule selon les revenus, puisque les revenus tirés de la production hydroélectrique financent les autres missions qui sont des missions qui ne rapportent pas de l'argent à CNR, mais qui font partie de notre mission. Donc une mission qui est vraiment très, très fortement liée au territoire. Et au-delà de ça, il y a aussi une partie des revenus de CNR qui sont redistribués au travers des territoires, au travers de ce qu'on appelait avant les missions d'intérêt général, qu'on appelle aussi depuis quelques mois les missions synchrones. Ce sont des montants alloués, c'est plusieurs dizaines de millions par an, alloués à des projets de territoire, toujours sur les territoires rhodaniens, que ce soit lié à la navigation ou à l'irrigation, comme on en a parlé, mais aussi, par exemple, à de la restauration environnementale ou des projets de développement économique, touristique, avec, par exemple, l'extension du musée d'Arles, la création de la Via Rhôna, pour laquelle CNR participe assez amplement à travers des études et à travers des financements, à travers c'est également le tracé de cette route que vous connaissez peut-être, qui est très agréable. Je vous invite à y pédaler. Voilà. Et également, c'est intéressant au travers de cet échange de vous dire que CNR est en fin de concession aujourd'hui et que nous avons un enjeu majeur dans les prochains mois qui est le renouvellement, la prolongation de cette concession pour 18 années. Ça a fait l'objet d'un processus de concertation très large depuis plus de deux années avec les territoires rhodaniens. Et nous espérons d'ici la fin du premier semestre de l'année prochaine avoir cette prolongation obtenue. Voilà pour la petite actualité. Sur la slide, vous voyez également que en termes de répartition du capital, c'est intéressant d'avoir cet élément en tête. CNR est un acteur aux capitaux majoritairement publics, alors très légèrement, hein, puisque on est sur un 50-50 quasiment, mais avec une majorité côté capitaux publics, avec un acteur majoritaire qui est le groupe Caisse des dépôts, et puis un ensemble, une myriade de collectivités locales qui peuvent être à l'échelle régionale, départementale, communauté de communes, voire communale. Et puis l'autre acteur de référence, c'est notre acteur industriel de référence, qui est le groupe Engie, donc acteur industriel lié au monde de l'énergie. Et dans cette myriade du monde de l'énergie, CNR est le premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. Donc le Rhône, c'est une puissance qui est quasiment fixe. Hein. On arrive à avoir des petites puissances additionnelles, 3000 MW installées. Et puis, au travers de développements autres, donc un patrimoine qu'on peut qualifier d'un patrimoine privé, hein, puisqu'il n'est pas lié stricto à la concession, CNR développe depuis une quinzaine d'années des actifs de production d'électricité 100% verte, éolien et photovoltaïque. Il y a aussi des petites concessions hydroélectriques en dehors de la concession du Rhône, mais ce sont des plus petites choses. Deuxième slide, si elle peut être projetée par moi d'ailleurs, je bascule. Simplement pour vous dire une autre spécificité de CNR, c'est environ 1400 personnes. Et concernant nos actifs de production d'énergie 100% renouvelable, on est sur toute la chaîne de valeur. Ça, c'est vraiment une spécificité de CNR. On n'est pas les seuls, mais quasiment. Donc, on va développer des projets, les construire, on va les exploiter, on va faire la vente de l'énergie, toute la valorisation, et on est là jusqu'à au démantèlement des parcs en fin de vie, puisque au bout de 25 ans, généralement, voilà, on a des parcs qui sont vieillissants et on va les démanteler soit pour créer un nouvel actif, soit pour se retirer du territoire. C'est une spécificité parce que la plupart des développeurs vont vendre leurs actifs à d'autres acteurs, que ce soit des fonds de pension ou autres. Donc nous, on est un acteur vraiment de territoire. Ça fait partie de l'ADN de CNR historique et on applique cette même façon au travers de l'ensemble des territoires, y compris au-delà du Rhône, hein, puisque vous voyez sur la petite carte en haut à droite que le développement de nos parcs se fait à l'échelle de la France entière, avec une cinquantaine de parcs éoliens et une quarantaine de parcs photovoltaïques aujourd'hui. Voilà pour la présentation grosse maille de CNR. Le sujet sur lequel je suis là pour vous présenter un exemple plus concret, c'est le développement de projets éoliens. Pourquoi ce sujet-là? Parce que ce sont des projets vraiment de territoire par excellence, dans le sens où ce sont des projets qui sont très long à développer. Il faut en général une dizaine d'années entre le moment où on a un premier contact avec le territoire et le moment où le parc tourne, est en activité. Ce sont des projets qui demandent un très grand travail en termes d'acceptabilité, puisque ce sont des projets visibles. Le photovoltaïque est aussi une technologie visible, mais ça s'intègre plus facilement dans le paysage, il n'y a pas cet aspect hauteur. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de craintes, pas forcément justifiées, voilà, en termes de santé, en termes de différents éoliens. Et donc, il y a beaucoup d'actions de concertation qui doivent être portées au travers de ces projets. Ce qui est fait par défaut par tous les acteurs qui souhaitent développer un projet, en termes de redistribution et de lien avec le territoire, c'est une enquête publique. Donc ça, on n'y coupe pas et c'est obligatoire. Donc cette enquête publique, voilà, c'est une enquête publique assez classique. Le plus gros pavé de cette enquête publique, c'est la partie biodiversité. Voilà. Et puis, il y a aussi une fiscalité, une redistribution au territoire au travers de la fiscalité des fiscalités qui découlent de la loi. Alors au-delà de ça, il faut mettre en place des outils assez innovants pour faire la différence avec les autres acteurs du milieu, parce que c'est un milieu extrêmement concurrentiel. Et il faut convaincre différentes échelles de population, différentes parties prenantes que ce projet a du sens. Donc, comment est-ce qu'on fait? Les outils sont très diversifiés. Il faut être assez innovant parce que, voilà, encore une fois, il faut avoir un coup d'avance sur les autres pour proposer des projets vertueux. Et CNR a cette histoire d'acteur qui a un ADN de redistribution sur le territoire, voilà, ça fait partie aussi des sujets de RSE. Et notre directoire nous demande de développer des projets très ambitieux en termes de concertation. La façon la plus ambitieuse de le faire, c'est d'impliquer les territoires, y compris au capital des sociétés de projet. C'est la meilleure façon, finalement, de partager à la fois la richesse financière, mais aussi de partager tout ce qui va être valeur éducative, puisqu'on va décider ensemble de différentes actions, mais également de partager ensemble les décisions. L'exemple dont je veux vous parler, alors les pactes et statuts sont pas tout à fait finalisés, mais on y est presque. Alors je ne citerai pas le nom de la commune, mais peu importe. On est sur le département de l'Ain et on est en cours de développement d'un projet éolien d'environ 5 éoliennes sur ce territoire. Donc au-delà de tout ce qui est atelier de concertation classique, c'est-à-dire nous allons apporter des informations au territoire au travers d'ateliers auxquels la population est invitée. On a créé un système qui est assez innovant, qui consiste à partager 50% de la valeur du projet avec les acteurs du territoire. Donc 50% de la société de projet sera détenue et détenue par CNR et 50% par d'autres acteurs. Alors qui sont ces acteurs? Dans l'exemple concret dont je parle, il y a la communauté d'agglo qui est concernée, qui veut prendre une participation dans ce projet. On a la commune qui veut y passer également une partie de ses deniers. Et puis, on a un dispositif qui permettra à terme d'impliquer fortement les citoyens et que les citoyens soient actionnaires du parc. Donc, c'est un dispositif, un outil qui s'appelle ENR Cité. C'est un fonds particulier qui a été monté avec le groupe Caisse des dépôts et notamment avec le Crédit Coopératif. Donc c'est un fonds qui permet une implication du territoire dans un projet et cette implication ensuite, enfin ces parts-là seront ouvertes à la population locale pour prise de participation. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas directement les citoyens qui s'impliquent dedans? Il faut savoir qu'un projet éolien n'aboutit pas toujours et que du coup, la notion d'investissement, de rentabilité et de risque est très importante comme tout projet. Mais les citoyens en général ne veulent investir dans un projet énergétique que quand on est à peu près certain qu'il se réalise. Donc le mécanisme consiste à dérisquer au maximum le projet et une fois que celui-ci est autorisé, prêt à construire, qu'on a une autorisation de raccordement et qu'on a un tarif, on va ouvrir le capital aux locaux. Voilà, c'est la façon la plus la moins risquée pour les locaux et voilà. Donc c'est des systèmes qu'on a déjà testés, alors pas au niveau citoyen mais au niveau commune sur d'autres projets, ça marche très bien. C'était également dans l'Ain, notamment sur la commune d'Échalon, qui a pris 10% du projet. Ça permet une implication forte des territoires. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, on implique également en termes de vote, c'est-à-dire que l'implantation d'un projet, c'est très important, et on va voter à l'unanimité de la position des éoliennes. Donc les études techniques sont faites par nous, on va proposer des variantes, on va expliquer les avantages et les inconvénients, et on votera avec les différents acteurs sur l'implantation finale. De même, il y a un vote qui est prévu pour le dépôt du dossier final. Donc voilà, de vote à l'unanimité. Donc ce sont des systèmes assez innovants. On n'est pas les seuls à les faire, mais je pense que sur cette participation à 50-50 avec ENR Cité, on fait vraiment partie des tout premiers. Concernant donc les avantages, vous l'aurez compris, c'est qu'on implique très fortement différentes parties prenantes et acteurs du territoire. L'inconvénient, parce que c'est quand même aussi le cas, il n'y a pas que des inconvénients, sinon tout le monde le ferait. Les inconvénients, c'est que en tant que porteur de projet, on rajoute un risque dans notre projet. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va être plusieurs à voter sur l'implantation, sur le dépôt du dossier, c'est-à-dire que si un des acteurs décide de ne plus être d'accord, et les projets sont longs, hein, je disais tout à l'heure une dizaine d'années, s'il n'est plus d'accord et qu'il ne change pas d'avis, on ne peut pas aller au bout du projet. Donc ce partage de gouvernance peut faire tomber un projet à un moment donné. Autre inconvénient, c'est que cette forme de concertation élargie est assez chronophage. Ça coûte un peu d'argent en plus, mais ça, c'est pas dimensionnant. Mais ça peut prendre du temps sur des projets qui sont déjà longs de se mettre d'accord sur toutes les décisions qui vont être prises, les pactes et statuts, le montage de sociétés, etc. C'est assez chronophage et on rallonge encore la durée de nos projets qui sont déjà assez longs. Voilà ce que je peux vous dire. Un autre outil qu'on utilise sur certains de nos parcs, qu'on propose régulièrement, c'est ce qui est le financement participatif. Ça, c'est un outil que vous devez connaître, hein, qui est assez classique, où les citoyens peuvent rentrer, peuvent avoir une rentabilité sur 3 à 5 ans sur nos projets, sur les 3 premières années de projet de vie, des projets. Donc, c'est pas de l'actionnariat, hein, c'est de la participation aux retombées des premières années. Voilà, c'est quelque chose que l'on fait, qui marche assez bien et qui aide, mais... voilà, c'est quand même beaucoup moins engagé que le premier modèle que je vous présentais. Voilà pour les grandes lignes de ce que je voulais vous présenter en termes de projets concrets, de façon d'aborder les territoires, sachant voilà autour de multitude d'outils plus classiques, hein, qui sont des visites de sites, hein, c'est-à-dire que par exemple sur des collectifs qui sont craintifs, on va proposer la visite d'un parc éolien de la région, donc on va affréter un car et puis on va expliquer devant l'objet, puisque certaines personnes n'ont jamais vu de près une éolienne, et c'est bien normal, et ben on va aller au pied de l'éolienne, on va aller à 500 mètres, et on va essayer de démontrer aux personnes la réalité de ce qu'est un parc éolien. Et ça, c'est important, et en général, c'est une très bonne façon de faire, au-delà des ateliers de concertation. Voilà, il est presque 19h, donc je vais peut-être vous laisser le temps de parole et d'échange pour...